est la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Et vous le savez, c'est une tradition entre 18h30 et 19h. C'est le débat des grandes voix qui nous permet tous les soirs de prendre du recul sur l'info du jour. Avec autour de vous et à distance, Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Duteil en charge de l'économie. À Europe 1, vous pouvez bien sûr réagir, leur poser toutes vos questions dès maintenant au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Eh bien, là encore, je suis ravie de vous retrouver pour démarrer cette semaine avec vous, avec beaucoup de questions sur chacun vos spécialités. On va commencer par sans doute le sujet qui fait le plus débat en ce moment, c'est l'hydroxychloroquine avec vous, donc Ève Roger. Ève, il y a pas mal de questions qui se posent, encore une fois, parce qu'il y a eu des conséquences dans certains cas, parce qu'une utilisation en forme d'automédication,
alors,
on l'a dit...
Nathalie, je ne suis pas sûre de vous entendre correctement.
Alors attendez, est-ce que vous m'entendez là, Eve?
Ça y est, je vous entends bien.
D'accord.
Ce que je voulais vous dire, vous m'avez posé une question ou je n'ai pas entendu?
Alors je vous ai posé une question. On parlait de l'hydroxychloroquine et qui fait débat évidemment depuis des jours. Et surtout sur cette automédication qui peut avoir des conséquences, on a pu d'ores et déjà le constater, avec de graves effets secondaires. Est-ce que vous pouvez
nous en
dire plus?
C'est ça, mais en fait c'est ce qu'on craignait, ce qui est arrivé.
C'est ça.
Finalement, c'est l'utilisation un peu en sauvage de ce médicament sans prescription médicale, sans suivi médical. Donc au fond, tous ceux qui ont crié un peu la semaine dernière, eh ben, ils avaient raison, parce que vous avez vu, il y avait un article du Monde qui était assez savoureux cet après-midi, si je peux m'exprimer ainsi, puisque on voyait bien que non seulement il y avait des gens qui rédigeaient eux-mêmes leurs propres ordonnances des patients, mais que des médecins eux-mêmes allaient dans les pharmacies, il y en a un qui dit c'est pour ma femme, elle a du lupus ou de la polyarthrite rhumatoïde. C'est-à-dire que même les médecins sont devenus fous avec cette histoire. Donc ce que voulait pas le ministre de la Santé, c'était justement que les gens puissent faire une sorte d'auto-prescription, d'auto-médication, parce que justement, c'est un médicament qu'il faut que les patients soient suivis par des médecins, qui aient des examens sur les problèmes cardiaques, sur les antécédents. Donc c'est exactement ce qu'on craignait qui est arrivé aujourd'hui. Donc là, je peux vous dire que ce soir, l'Agence du médicament va faire un communiqué en disant qu'ils ont effectivement des remontées qui seront pas seulement de la Nouvelle-Aquitaine, mais de partout en France, et qu'il va falloir être extrêmement prudent, faire extrêmement attention, parce que pour l'instant, il n'y a pas de victimes graves, mais ça peut arriver.
Ouais, mais très difficile évidemment de rester raisonnable en cette période de grand stress et d'inquiétude. Il y a des tests encore qui sont développés. On aura à grande échelle, à plus grande échelle, cela a été commandé par le ministre de la Santé, Olivier Véran. On aura les résultats quand?
Alors, moi, je suis très partagée sur l'histoire des résultats, parce que j'entends la ministre de la Recherche ce matin dire peut-être à la fin de cette semaine. Et moi, j'entends aussi Yazdan Pana, qui est infectiologue à l'hôpital Bichat, qui dirige l'étude en France
conseil
qui s'appelle Discovery. Et lui, il dit pas avant un mois. Alors là aussi, on disait le temps des politiques et pas le temps des scientifiques. Ouais. Moi, je suis partagée, je ne saurais pas qui croire. Enfin, plutôt, j'aurais plutôt tendance à croire le scientifique que la politique, mais peut-être qu'il y aura une ébauche de résultats d'ici la fin de la semaine. Mais c'est vrai que ça urge, c'est vrai que ça urge.
C'est vrai que ça
on
ne
peut pas aller plus vite que la musique.
Bien sûr, mais en tout cas, gare à l'automédication, même pas gare à l'automédication, interdisons.
Interdiction.
Enfin, en tout cas, interdisez-vous à vous-même, évidemment, l'automédication. Florian nous appelle de Nice. Bonsoir, Florian.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Florian, je crois que vous êtes soigné à l'hydroxychloroquine?
Oui, tout à fait. En fait, je suis
prescrite par votre médecin?
Par mon médecin traitant, oui.
D'accord.
En fait, je suis tombée malade, je pense, aux alentours du 10 mars. Donc, j'ai
contracté. Il y a 20 jours maintenant, oui.
Voilà, ce virus assez tôt. J'ai commencé, me suis rendu à l'hôpital, j'ai commencé par un traitement d'Doliprane antibiotique. Qui au bout de 48 heures ne donnait pas de résultats, et surtout avec des symptômes qui s'accéléraient très fortement. Donc j'avais des céphalées très fortes, une fièvre prédominante, et j'étais monté à 3 grammes de Doliprane par jour. Et impossible de les baisser, parce que si je les baissais, je ne dormais plus. Et mon médecin traitant m'a proposé de basculer sur un traitement qui associait plaquenil et azithromycine.
Ouais.
Donc c'était un protocole sur 6 jours. Et là, j'ai aussi, en 48 heures, j'ai perdu le goût et l'odorat. Alors ça, c'était incompréhensible, parce que en plus, à l'époque, ce n'était pas dans les symptômes.
Dans les effets,
on l'a découvert un petit peu après, mais on avance vraiment à vue quand ça vous tombe dessus, et puis les tests,
et
en plus,
coup,
à l'époque.
Ouais. Et du coup, alors, sous l'effet de la chloroquine, enfin de l'association des deux composants,
En 48 heures, vous sentez que ça vous... En fait, vous êtes toute votre énergie aspirée. Vous démarrez la journée avec 20% d'énergie. Là, en 48 heures, vous sentez qu'il y a une sorte de rebond qui s'opère et vous recommencez à prendre, vous reprenez le dessus sur la maladie. Donc, en bout de 48 heures, je commençais à me sentir mieux. La respiration, j'étais moins oppressée. J'avais des céphalées qui commençaient à s'estomper. Plus de frissons. La fièvre commençait à baisser parce qu'elle est prédominante. Elle ne bouge plus. Et j'ai pu arrêter le Doliprane au bout de 4 jours.
D'accord. Et là, il n'y a pas eu de rechute. Vous êtes complètement soulagé aujourd'hui.
Il n'y a pas eu de rechute. Au bout de 6 jours, j'étais guéri. J'avais retrouvé le souffle, retrouvé mon énergie. Et aussi, également, j'ai eu aucun effet secondaire.
D'accord. Vous avez quel âge, Florian?
Moi, j'ai 44 ans. D'accord. J'ai pas d'antécédent cardiaque.
Pas d'antécédent cardiaque. Voilà. Toujours bon de le rappeler et d'être extrêmement vigilant. Voilà. Mais en tout cas, on entend votre témoignage, on entend que ça vous a soigné, en tout cas que ça vous a beaucoup aidé. Merci beaucoup de nous avoir contacté depuis Nice. Mais on le rappelle aussi, il ne faut pas utiliser l'hydroxychloroquine en médecine de ville parce que on va avoir des accidents et il y a beaucoup d'alertes en ce sens. Michaël Darmon, je vous demande pas d'enfiler la blouse blanche, mais c'est Marine Le Pen en revanche chez les politiques qui prend fait et cause pour l'hydroxychloroquine. Et qui dit il faut y aller.
Oui, c'est-à-dire qu'elle, évidemment, elle a compris donc le potentiel politique. Hein, on l'a beaucoup pointé ces derniers jours, le potentiel politique de se raccrocher à une partie de l'opinion qui soutient le professeur Didier Raoult et le fait que justement ça puisse symboliser cette bataille du seul contre le système et de la médecine des élites contre le peuple qui n'a pas les mêmes accès ou les mêmes chance. Bon, tout cela, on voit bien que on comprend d'ailleurs en ce moment.
Ça s'appelle se surfer sur la crise.
Ça s'appelle faire de la politique. Oui. Vous savez, en ce moment, l'exécutif est massif et il est présent, il est prépondérant. On ne veut entendre que lui et c'est très compliqué pour l'opposition de trouver des brèches, des aspérités où se raccrocher et faire un petit peu son métier, je dirais entre guillemets. Donc, pour l'instant, il y a ce positionnement-là.
Rien ne soleil, juste du positionnement. On va revenir sur le gouvernement.
Mais c'est pas anodin non plus, voilà, parce que on se souvient que pendant les Gilets jaunes, le positionnement de Marine Le Pen a été quand même payant. Pour elle.
Exactement. Alors je reviens vers vous dans une seconde. Emmanuel Dutheil, on a appris aujourd'hui que... Alors on va commencer par ça, mais on a beaucoup de sujets économiques évidemment à voir avec vous. Le salon de l'automobile, c'est pas rien, il est tout simplement annulé. Il n'est pas reporté, hein. Il aurait dû avoir lieu. Attention, à la rentrée pourtant, hein. Il est
ni effectivement, plus, ni moins qu'annulé. C'est un symbole. Il aurait dû avoir lieu au mois d'octobre. Il a lieu une année sur deux à Paris. L'autre année, c'est en Allemagne. Et jusque-là, c'était à Francfort que ce salon se tenait. Alors, pourquoi il est annulé? Eh bien, tout simplement parce que l'industrie automobile est à genoux. Il faut voir que l'industrie automobile vit peut-être l'une des plus graves crises de son histoire. C'est-à-dire que c'est pire que 2008 parce que là, on est complètement à l'arrêt. C'est même pas l'idée qu'on n'achète pas beaucoup de voitures. On achète pas du tout de voiture. Donc le salon de l'automobile, qui était déjà un salon qui se posait beaucoup de questions quant à son positionnement, qui essayait de se réinventer, parce que le concept même des salons ne marchait plus. Mais ben là, cette crise a balayé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rendez-vous de l'automobile à Paris au mois d'octobre. Pour le moment, ces organisateurs disent qu'ils annulent la manifestation en l'état, mais qu'ils essayent de repenser à quelque chose qui pourrait prendre une autre forme. Alors, d'accord. Quelle sera cette forme? Ça, pour le moment, on n'a pas encore vraiment d'indication dessus, mais ça envoie vraiment plusieurs messages. Un, que la crise va être longue et très longue pour certains secteurs qui sont mis à genoux aujourd'hui. Et c'est l'exemple de l'automobile qui est véritablement aujourd'hui en grande difficulté.
Ève Roger, je voudrais regarder avec vous, non pas les tests sur la chloroquine, parce que vous nous avez dit votre prudence aussi sur les résultats, avec des dates qui divergent selon les sources. Là où on a une date, a priori, et c'est la fin de la semaine, ce serait pour les premiers effets du confinement. Là, chez nous, en France, ça fait plus de 15 jours maintenant. Normalement, à la fin de la semaine, on a quelques chiffres.
Ça fera 15 jours demain exactement, puisqu'on a commencé mardi et 17 à midi.
C'était pas le dimanche,
donc,
c'était mardi.
Les scientifiques s'accordent à dire qu'il faut compter entre 15 jours et 3 semaines. Donc c'est à compter de cette semaine, de cette fin de semaine, qu'on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe. Et ce qui se passe, ça veut dire qu'on va regarder de très près le nombre de patients admis en réanimation et ainsi que le nombre de morts, parce que ça va être les deux indicateurs, parce que le nombre de cas, on sait très bien qu'entre les dépistages ici et là, les les politiques différentes, c'est pas très représentatif. Mmh. Et c'est donc plutôt la réanimation. Et donc il faut faire très attention, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une petite musique qui dit attention, on va bientôt atteindre le pic. Moi, je crois pas. Le pic, on en est encore loin, parce que même le Grand Est n'a pas encore passé son pic. L'Île-de-France, ça sera pas avant la semaine prochaine. Donc il faut penser à la France entière. Le pic, il faut que ça soit sur l'ensemble de la France. Il faut que les régions, elles passent toutes par ce même scénario qui commence par une vague de patients dans la réanimation, le pic, et puis après, comme disent les scientifiques, un très joli mot, une d'effervescence. Ouais. Donc ça, on n'y est pas encore, mais c'est vrai qu'à partir de demain, c'est-à-dire que vous êtes, si vous tombez malade après demain, donc après mardi, c'est que vous êtes tombé malade pendant le confinement.
Pendant le confinement,
donc ça sera déjà une certitude. Et comme le confinement, au départ, n'a pas été très, très bien tenu, on s'en souvient, c'est possible aussi que ça décale encore un peu les effets du confinement. Mais on va y arriver, hein. Moi, je suis pas défaitiste. Oui, mais je crois qu'il faut être très prudent aussi. C'est pas demain, quoi. Il faut continuer. Vous avez entendu dans le journal de 18h, cette directrice de CHU à Metz, Thionville, elle est encore dans la panique. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas encore, quoi.
On n'y est pas encore, et loin du compte, évidemment. On a entendu Jean-Michel Blanquer, qui était ce matin aussi le ministre de l'Éducation nationale, l'invité de Sonia Mabrouk. On va y revenir avec vous, Mickaël Darmon, à ses propos dans un petit instant. Restez avec nous, les grandes voix. À tout de suite sur Europe 1 39-21.
18h45 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, à distance, Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Et toutes vos questions, toutes vos réactions en direct au 39-21. Tous les bénéfices sont reversés à l'Institut Pasteur, je vous le rappelle. Et puis vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Emmanuel Duteil, une petite question là ce soir sur le chômage partiel. Parce que si le compte est bon, on est actuellement à une demande de chômage partiel pour plus de 2 millions de salariés, 220 000 entreprises qui ont demandé d'avoir recours à ce système, à ce chômage partiel. Mais tout ne va pas si bien dans cette organisation.
Alors, c'est pas que tout va pas si bien, c'est-à-dire que je vois bien le derrière de votre question, Nathalie. C'est que le dispositif marche parce que le but de ce dispositif, c'est de permettre aux entreprises de survivre en gardant les compétences et en mettant le moins de gens possible au chômage. Ça fonctionne. Mais je sens la perfidie dans votre question et je pense que vous vouliez me faire dire qu'il y en a certains qui ne respectent pas tout à fait l'esprit. L'esprit, c'est
d'autant
quoi?
D'autant que j'ai eu des cas pratiques, pardonnez-moi, mais dans mon entourage proche, où effectivement, le salarié est mis en chômage partiel par son patron, sauf qu'en fait, on lui demande de faire du télétravail.
Et vous avez totalement raison. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même faire très attention. C'est très marginal. C'est-à-dire que la quasi-totalité des entreprises qui mettent leurs collaborateurs au chômage partiel, c'est qu'ils sont dans une situation cataclysmique. Vous savez, quand vous êtes un petit patron et que vous devez fermer la clé et que vous mettez tout le monde au chômage partiel, je peux dire, ça vous prend aux tripes. Donc, ceux qui trichent sont une minorité. Mais effectivement, dans mon entourage aussi, on a des remontées de gens qui disent, bah voilà, j'ai été mis, je vais vous donner un cas, j'ai un ami qui m'a dit, j'ai été mis au chômage partiel à mi-temps, mais on me demande de travailler plus qu'un mi-temps, de travailler quasiment totalement en télétravail. Donc oui, ça existe.
Alors, pardonnez-moi, je prolonge ma question, mais que peut faire le salarié dans ce cas?
Alors, le salarié, il peut faire quelque chose de très simple, puisque le ministère du Travail vient cet après-midi même de rappeler les règles, et il appelle les salariés concernés à en appeler directement en direction régionale de l'emploi, c'est ce qu'on appelle les directs, et on les appelle directement à dénoncer ces comportements, parce qu'il faut savoir que ce que risque le chef d'entreprise est énorme. Il risque déjà dans un premier temps de devoir rembourser la totalité des sommes perçues, c'est quand même le moins qu'on puisse espérer, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, et il y a également le fait qu'il n'aurait pas la possibilité d'avoir sur une durée maximale de 5 ans des aides pour l'emploi. Donc,
sauf que quid du retour de bâton pour le salarié?
Alors, le salarié, il y est pour rien. Lui, on lui a imposé à travailler, encore heureux.
Mais j'entends par là.
Doublement tapé sur le collaborateur. Ouais. Déjà qu'il a dû travailler alors qu'il n'avait pas à travailler. Non, quand même, il y a une justice dans ce monde. Donc, c'est pour le chef d'entreprise que ça risque d'être très grave. Mais il faut croire que le ministère du Travail commence à avoir quelques remontées. Et je pense qu'ils le font aussi, ce rappel à la loi, pour une autre raison. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il fallait une autorisation pour pouvoir se mettre en chômage partiel. Et Muriel Pénicaud, sur l'antenne d'Europe 1, il paraît que c'est une très bonne radio, est venue annoncer la semaine dernière que maintenant, on faisait la demande, et si sous 48 heures, vous n'aviez pas de réponse, c'est que c'était automatiquement accepté. Et que les équipes du ministère vérifieraient après coup. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je pense qu'ils se disent, ils ont tellement levé les barrières, qu'ils se disent, il va y en avoir quelques-uns.
On reste français même dans une période de crise. Donc il y en a quelques-uns qui vont contrevenir à la loi.
Système, comme on dit.
Voilà.
Anissa, vous avez une question sur Twitter, je crois, sur le sujet.
Oui, pour Emmanuel Dutheil, effectivement.
Avec sa petite rose qui court derrière, on l'entend.
Une question de Christophe avec le hashtag Radio Ouverte. En cas de chômage partiel, qui touche l'indemnité ? Est-ce que c'est le salarié ou est-ce que c'est l'employeur ?
Eh bien, c'est le salarié qui touche l'indemnité au sens strict parce que c'est lui qui va être payé directement par l'État, même si lui ne s'en rend pas véritablement compte. Mais c'est donc quand même bien l'État qui prend en charge son salaire. Je vous rappelle, chômage partiel, 70% du salaire brut, 84% du salaire net.
Exactement. Alors, Michaël Darmon. Michaël Darmon, on la voit chaque jour dans les différentes enquêtes d'opinion et puis on n'a pas besoin d'attendre les enquêtes d'opinion pour... papa, dit Rose à Emmanuel Dutheil, pour voir la montée, la défiance vis-à-vis du gouvernement. Encore une nouvelle baisse dans cette nouveau sondage. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On reprend en main les ministres, comme la semaine dernière, Sibeth Ndiaye en tête, par exemple, ou même Jean-Michel Blanquer, mais encore.
Écoutez, déjà, on a vu, il faudra attendre quelques jours pour voir si la grande opération de nettoyage et de pédagogie, nettoyage des messages, de recadrage des ministres et de pédagogie très importante qu'a faite donc le Premier ministre avec le ministre de la Santé ce week-end, et bien si ça infuse, comme on dit, parce que on a bien vu que tout le fait d'avoir cette longue séance presque on pourrait dire de Covid pour les nuls mais qui était très au fond utile aussi pour beaucoup de reprendre tout depuis le départ avec toutes les questions, toutes les polémiques sans éviter aucun sujet, et bien c'est en fait de nature à recadrer les messages parce que comme vous l'avez dit la semaine dernière c'était très chaotique on voit bien, et je réagissais d'ailleurs en écoutant aussi tout à l'heure Ève qui disait voilà, le Frédéric Vidal dit plutôt mois de mai, alors qu'en réalité pour les tests elle entend plutôt plus tard. Et bien une fois de plus il y a cette tentation des ministres et de l'exécutif de, vous savez, de faire un peu comme le mono de la colo, vous savez, en randonnée, on en a marre de marcher quand on est gamin, et toutes les 30 secondes il dit on est arrivé, ça y est, on est arrivé, alors qu'il sait parfaitement qu'on n'est pas arrivé.
C'est pour ça, alors,
on est dans cette logique-là.
Oui, c'est ça. Alors justement, Michaël, c'est pour ça que, par exemple, ce matin, Jean-Michel Blanquer, au micro de Sonia Mabrouk et Mathieu Bellière sur Europe 1, a dit pour une rentrée scolaire au 4 mai, ce qu'il avait avancé peut-être de manière un peu vive ou un peu empressée il y a 15 jours de cela. Là, disons qu'il a été sur ses gardes. Et,
oui, mais il a répété que c'était le scénario sur lequel il travaillait.
Le scénario le plus optimiste.
Voilà, c'est le scénario optimiste, c'est mon souhait, j'aimerais bien, c'est l'hypothèse de travail. Donc il a jamais dit non, il a pas dit, il a pas démenti, mais il aimerait bien, il tend parce qu'au fond on lui a dit c'est ça, mais il faut pas le dire. Il a été d'ailleurs au fond l'information effectivement de ce matin, c'était aussi que bien il a validé le fait qu'il aurait une partie de contrôle continu dans le bac. Donc ça c'est déjà, c'était aussi tout intéressant. Mais ce que voilà, on sent bien qu'il y a cette grande difficulté parce qu'il y a cette crainte de voir que les Français n'arrivent pas à être embarqués par l'action du gouvernement. Ils sont en défiance, ils ne comprennent pas. Je pense qu'une fois de plus, le triptyque masque, gel, test sera en permanence celui qui sera la grille de lecture de l'opinion des Français et du public vis-à-vis du gouvernement. Et c'est pas facile, d'autant plus que maintenant, il y a un peu le début du questionnement. Alors voilà, cette semaine, on l'a appris, Édouard Philippe va se rendre devant la mission parlementaire de l'Assemblée nationale créée par Gérard Ferrand. Donc ça n'est pas une commission d'enquête avec l'attention que ça suppose. Mais on sent bien qu'il faut absolument que l'exécutif s'explique le plus possible parce qu'il y a un problème, il y a un déficit de crédibilité dans les explications et dans la transmission des informations au public.
Voilà, exactement. Alors, cette défiance, ces doutes, cette inquiétude des Français, elle est d'autant plus justifiée que quand on regarde en dehors de nos frontières, nos voisins, Ève Roger, eh bien, on se dit, mais on y arrive. On y arrive en Allemagne avec les tests, par exemple. On y arrive aussi avec nos voisins suédois, un des rares pays d'Europe non confinés. Est-ce que vous avez une explication ? Racontez-nous un peu comment ils s'organisent.
La défiance, elle est valable là-bas aussi, parce qu'ils disent, mais pourquoi tout le monde est confiné et pas nous?
Et pas nous.
Donc en réalité, c'est le même type de défiance dans l'autre sens. Et je pense qu'on verra à l'arrivée qui avait raison, mais ça, c'est un peu difficile à dire. Donc là, effectivement, ils ne sont pas confinés. Ils ont juste des recommandations. Mmh. Alors, ils ont le droit de, il y a 10 millions d'habitants en Suède, donc ils ont le droit de, il faut limiter les déplacements. Les personnes de moins de 70 ans, on leur demande de pas sortir. Mais, par exemple, les lycées, les universités sont fermées, mais les crèches, les collèges et les écoles sont ouvertes. Alors j'imagine en France que ça ferait si on disait il y a une partie des écoles qui est fermée et une autre partie qui est ouverte. Les bars et les restaurants restent ouverts. En même temps, on demande de garder la distanciation sociale. Donc ils sont fondés sur quelque chose qui ressemble au civisme en disant les Suédois sont civiques, ils vont respecter parce qu'ils ne veulent pas cet impact sur l'économie qui est si tragique chez nous.
Il faut quand même dire que c'est 10 millions d'habitants.
Décrit tous les soirs. Voilà,
bien sûr, c'est 10 millions d'habitants en Suède contre c'est 7 fois moins d'habitants que la France. Hein, avec à ce jour où pratiquement on est à 8 morts au décompte.
Alors, il y en a beaucoup plus en Suède en réalité, c'est parce que maintenant les chiffres aussi augmentent pareil. Ah. C'est exactement la même histoire dans tous les pays. On est à 3000 cas et plus de 100 morts. Donc c'est vrai que là, la tension commence à monter, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire on se dit, mais est-ce qu'on ne devrait pas être confiné complètement? Mais on ne sait pas si c'est un choix politique, stratégie politique ou économique. Là-bas, c'est l'agence, comme si c'était la Santé publique France, l'équivalent, qui s'appelle l'agence de santé publique, qui décide de la politique. Et les politiques obéissent à l'agence sanitaire. Ils n'ont pas les mains libres pour décider. Donc c'est un autre fonctionnement, mais effectivement la défiance elle est là-bas aussi en se demandant est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie. Donc franchement c'est quasiment le seul pays européen avec les Pays-Bas à ne pas être confiné et il faudra vraiment qu'on regarde les résultats à l'arrivée parce qu'ils visent, vous savez ce qu'on appelle cette immunité collective, si le virus circule un peu partout, et ben à la sortie de l'épidémie, tout le monde sera immunisé ou une grande partie et il n'y aura pas une deuxième vague. Et c'est vrai qu'on parlait de Jean-Michel Blanquer et le 4 mai, il y a quand même immensément cette crainte de la deuxième vague et de la reprise du virus si on sort trop vite.
Ouais. Michael Darmon sur nos voisins.
Oui, c'est intéressant ce que vient de dire Eve, parce qu'il y a la Norvège également qui est dans un confinement, semi-confinement. Donc, et en fait, c'est à chaque fois, ça a été dit, mais je pense que c'est intéressant de pointer la différence. C'est aussi lié au logiciel socioculturel, c'est-à-dire que la capacité d'intégrer des consignes pour l'intérêt général, pour le terrain public, pour un petit peu la société dans ces pays, de par leur système culturel. Est beaucoup plus élaboré et beaucoup plus puissant et ancré qu'en France. C'est pas uniquement de la discipline, c'est aussi un rapport totalement différent à l'intérêt général que nous sommes en train d'apprendre par de la force des circonstances, nous. Hein. Mais regardez combien de temps il a fallu pour accepter les conseillers. Il y a encore, avec très certainement, des manifestations ici ou là de gens qui contestent. Mais on comprend aussi pourquoi il y a une forme de confiance générale dans ces pays du Nord, de l'Europe, parce que il y a déjà une approche globale sur le rapport à l'intérêt général, le rapport à la place publique.
À la place publique, ouais. Emmanuel Dutheil, un mot encore, une question qui va peut-être en soulager certains. Les contrôles fiscaux ont été suspendus aujourd'hui, tout comme le recouvrement forcé. Hein. C'est une décision inédite, non ?
Alors c'est une décision, oui, sûrement inédite, et c'est vrai que là encore, hein, c'est quelque chose de très symbolique, c'est pour montrer qu'en cette période, on ne veut pas embêter plus que de raison ceux qui sont au travail. Donc c'est une décision très importante, et Bruce en ce moment, même si du côté du ministère de l'Action et des Comptes Publics, on ne veut en rien confirmer, mais Bruce pour le moment qu'on pourrait peut-être même décaler aussi la déclaration de revenus. Vous savez, il faut quand même continuer à faire nos déclarations de revenus, donc... Il travaille aussi là-dessus, mais là encore, on est sur du domaine du symbole, parce qu'à la rigueur, les contrôles fiscaux en ce moment, mais c'est vraiment pour l'idée de dire, on vous fait confiance dans cette période extrêmement importante. Et vous le savez peut-être pas, Nathalie, mais j'ai par ailleurs une petite passion pour les rois et les reines, et je voulais quand même signifier que pour la Suède, la famille royale, et c'est peut-être ça le plus efficace, a montré qu'elle était quasi confinée, puisqu'ils ont montré qu'ils travaillaient en télétravail hier sur leur page Instagram, que ce soit le roi Carl VI Gustave de Suède et sa femme, mais également les enfants ont tous montré qu'ils étaient au travail, en télétravail, hier.
D'accord.
Voilà.
Bon. Merci beaucoup, les grandes voix. Merci. Merci à Rose d'avoir participé à notre discussion ce soir.
Voix.
Mais oui, on adore. Elle est la bienvenue. Merci à vous trois.